Alors c'est tout un exploit à chaque arrivage, hein. On dort pas bien quand on a les gros arrivages. C'est toujours un peu compliqué. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on finit par avoir quand même des gens qui connaissent de mieux en mieux les produits à l'entrée. Ça aide. Après, où on rigole parfois, c'est quand on a des produits vivants, hein, parce qu'on a des produits parfois qui bougent encore dans les caisses. On importe parfois du turbo qui arrive frais et vivant. Donc, il respire encore dans les caisses.
Bonjour, je suis Pascal.
Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
Allez, c'est parti, on est dans le jus.
La base de toute la cuisine, ce sont les produits. Et depuis quelques années, il y a une belle tendance des restos à cuisiner local, à redécouvrir les produits d'ici, à mettre en avant le patrimoine culinaire québécois. Mais parfois, il y a des produits d'exception que tu trouves seulement à quelques endroits du globe. Alors bien sûr, on peut toujours argumenter qu'on pourrait très bien vivre sans parmesan reggiano, vin de Bourgogne ou bœuf de Kobe. Mais à ce moment-là, il faudrait aussi se passer de riz, de chocolat, de café. Et je te le dis, là, t'enlèves le café au cuisinier, c'est la grève générale. Bon, on n'est pas là pour parler de café, mais les produits d'exception de notre invité, qui sont servis dans les plus grands restaurants du Canada, truffes noires du Périgord, caviar beluga, safran d'Afghanistan, vanille de Tahiti. Aujourd'hui, c'est Eric et Elliot qui sont dans le jus.
Bonjour, bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Salut messieurs. Alors,
on salive, il faut le dire.
Pascal, dis-nous pourquoi on salive.
On salive parce qu'on est assis à une table où il y a beaucoup des produits de la compagnie qui ces deux jeunes personnes représentent, Action. Et donc, il y a tout un tas de trucs, il y a beaucoup, c'est beau visuellement, et ça sent très très bon.
Alors, ce sont des produits d'exception, Eric et Elliot, est-ce que vous voulez nous présenter votre compagnie, s'il vous plaît, en 2 minutes?
Alors, Action a vu le jour il y a 10 ans, ça fait 10 ans qu'on travaille sur Montréal, on a commencé à travailler un petit peu dans les villes environnantes. La compagnie, on a décidé au tout début d'apporter des produits qui n'existent pas au Canada, en tout cas pas sous cette forme-là, et on est allé chercher des produits exceptionnels, surtout des produits qui sont bien faits, on prend le temps de faire les choses, et des produits qui ont un goût exceptionnel, c'est ce qui est la première obligation pour la validation de ceci.
Alors Elliot, est-ce que tu peux nous décrire quelques-uns des produits que vous avez ramenés aujourd'hui, que vous avez mis sous notre nez. Ça va être un podcast difficile, Pascal.
C'est déjà difficile et c'est que le début.
Alors là, aujourd'hui, on vous a fait une petite sélection de ce que nous, on travaille tous les jours avec nos chefs au quotidien. On est sur donc de la truffe noire du Périgord, à savoir que là, on est sur vraiment les dernières truffes noires de la saison, en tout cas en France, parce qu'on parlera certainement après des autres truffes noires peut-être du Chili, d'Australie. Et on vous a ramené surtout les caviars de la maison Caviari. Donc on a une gamme très variée de différents caviars. Et puis beaucoup d'autres produits aussi très sympas, à savoir des charcuteries lyonnaises, le fameux Jésus lyonnais, que je pense pas mal d'entre vous reconnaîtront. De la poutargue, des ormeaux, des langoustines, pour ne citer que ça.
Alors il y a aussi deux produits... alors il y a de la poutargue, oui, il y a deux produits qu'on connaît un petit peu moins bien. C'est l'échalote noire, et il y a un genre de rocher, de caillou. Je me demandais si c'était de la déco un peu conceptuelle, mais non, c'est bien à manger. Est-ce que
c'est du cœur de thon qui est fumé. C'est le thon, des petits thons de Méditerranée, où on a des tout petits cœurs qui sont fumés et séchés. C'est très très bon, c'est très fort. C'est intéressant comme goût. On a l'impression de manger du thon, en fait, la chair du thon. Et il faut tout simplement le râper ou en faire des petits copeaux pour mettre sur un plat. Ça peut être sur un plat de légumes, mais ça peut être aussi avec une viande ou avec un poisson.
Un peu dans l'idée de la bonite japonaise.
Exactement, d'un katsuobushi.
Okay. Je connaissais l'ail noir. J'avais entendu parler qu'on pouvait faire la fermentation avec des oignons ou des échalotes, mais j'en avais jamais vu. J'en ai jamais goûté non plus. Est-ce que tu peux nous parler de l'échalote noire?
Alors on part sur une base d'échalote qui est biologique, hein, qui n'a pas été traitée. C'est pas facile à faire. Hein. L'ail est assez simple à faire parce qu'il suffit d'avoir des gros volumes. Hein, puis la fumée passe assez facilement directement sur les pièces. Là, c'est différent parce qu'on a différentes couches de peau, donc il faut que
avec de l'humidité entre chaque couche.
Ouais, exactement. Donc il faut que la fumée aille bien au milieu avec des températures relativement basses. Mais c'est très complexe à faire. Je vais rester assez discret sur la recette. Mais je sais que ça a mis beaucoup de temps, en tout cas.
Je sais qu'il y a des cuisiniers à Montréal
qui essayent.
Ouais. Qui essayent. Hein. Rémi, petit coquin, tu essayes de voler.
Exactement. Rémi ou Jérémy, d'ailleurs.
Les deux.
Les deux petits coquins.
Les deux font la paire. Les deux
exactement.
La paire. Ouais. Alors, tout ça, c'est des produits magnifiques, incroyables, des produits d'exception. Qu'on trouve pas au Canada, donc que vous importez.
Oui, alors évidemment, parce que d'apporter des produits qu'on peut retrouver sur le terrain ici, enfin, ça n'a aucun sens. Sauf si on peut leur apporter une fabrication autre. Je vais peut-être m'expliquer sur par exemple les sashimi de sardines qu'on a sous les yeux, ou le thon qu'on peut trouver un petit peu plus loin, qui est fumé aussi. Ce sont des produits qui sont fumés à des très basses températures. Ce sont des choses qui sont pas autorisées au Canada ou au Québec, pour des raisons sanitaires, tout simplement. Donc ça, c'est des produits qu'on importe, tout simplement, pour avoir une texture différente. Si on essayait de faire la même chose ici, on pourrait pas, tout simplement. On aurait un produit qui serait ou brûlé par la chaleur. On aurait un produit qui n'aurait pas du tout la même texture ou le même visuel. Quoi. Donc on a des anchois aussi qui sont exceptionnels. Ce qui est important, c'est parler de la base de ce produit-là. Ce sont des pêches qui sont des pêches raisonnées. Et quand vous lisez la liste des produits sur l'emballage, vous allez vous rendre compte qu'il y a juste le poisson. Il y a rien d'autre que ça et le fumage.
Et pareil pour vos charcuteries.
Exactement, oui. On est très attentif à ça et on veut des produits... Ce qui est important pour nous, c'est le choix du produit et c'est le temps après pour pouvoir l'élaborer. C'est-à-dire d'avoir un produit le plus simple possible. Quoi.
Le Jésus, par exemple, est-ce qu'il y a des nitrites dedans ?
Non, du tout.
Alors, sans nitrite. Le Jésus, juste pour rappeler, c'est le saucisson lyonnais. Hein.
Exactement, c'est un gros saucisson.
Et donc sans nitrite, à ma connaissance, c'est pas autorisé au Québec, en tout cas.
Alors,
pas autorisé de la fabrication.
Voilà. En fait, ici, on va y mettre du sel pour la conservation ou du nitrite, tout simplement pour la conservation du porc. Mais là, ce sont des processus de fabrication différentes et c'est le séchage après qui fait la différence, tout simplement.
Donc, vous n'avez pas le choix d'apporter ces produits-là. Parce qu'on ne peut pas les trouver, on ne peut pas les fabriquer ici. On parle toujours de la douane canadienne quand on revient de vacances, qui sont un peu tatillons. J'imagine que pour vous, ils sont encore plus tatillons.
Oui, oui. Alors c'est tout un exploit à chaque arrivage. Hein. On ne dort pas bien quand on a des gros arrivages. C'est toujours un peu compliqué. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on finit par avoir quand même des gens qui connaissent de mieux en mieux les produits à l'entrée. Ça aide. Après, on rigole parfois, c'est quand on a des produits vivants, hein, parce qu'on a des produits parfois qui bougent encore dans les caisses. On importe parfois du turbo qui arrive frais et vivant, donc il respire encore dans les caisses. On a des ormeaux, on a des produits, on a des langoustines aussi, hein, qui sont vivantes. Donc ça les surprend toujours, mais on arrive à avoir un échange avec eux qui est intéressant. Et puis aussi toutes les institutions comme la SIA, comme la PAPAC, travailler avec eux, c'est important de leur expliquer ce qu'on fait. Et on est quand même beaucoup plus écoutés qu'on l'était il y a 10 ans maintenant.
Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter l'évolution des mentalités, de la connaissance des produits d'exception au Canada, parce que vous travaillez aussi dans tout le Canada, et puis aussi dans les restos. Est-ce que vous avez vu les choses qui évoluent depuis 10 ans ?
Oui. Ce qui est amusant, c'est que ça évolue. Moi, je trouve presque au trimestre, on voit que les chefs sont à la recherche de nouveaux produits. Alors, aussi au Québec, hein, parce qu'on a aussi des produits du Québec. On va chercher des fleurs, des plantes en Gaspésie. On va chercher des plantes en Mauricie. On va chercher dans le nord du Canada aussi des plantes pour les sauces, pour les préparations. Donc, on est capable aussi de travailler avec des gens sur place.
Les cueilleurs.
Les cueilleurs, exactement, les Amérindiens avec qui on travaille beaucoup. Et ça, c'est super intéressant. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir l'évolution des chefs. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aller chercher des produits autres que les produits du Québec. En fait, il y a une curiosité. Et c'est très différent de l'Ontario au Québec. En Colombie-Britannique, ils n'ont pas les mêmes non plus visions des choses. Donc c'est amusant de travailler dans chaque province et de pouvoir apporter le meilleur avec une demande qui est vraiment différente en fait.
Alors est-ce que tu peux nous expliquer les différentes visions Ontario, Québec, British Columbia?
Alors par exemple en Ontario, ils veulent une charcuterie différente aujourd'hui. Ils ont été habitués, ils ont été nourris par les charcuteries italiennes depuis longtemps. On sent qu'aujourd'hui, ils vont vers une charcuterie beaucoup plus artisanale, mais avec des goûts beaucoup plus prononcés, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, parce que le goût prononcé, ça peut aussi faire peur aux gens, hein, quand c'est trop fort, quand ça goûte trop fort, comme on dit ici. Et eux sont capables aujourd'hui de changer au fur et à mesure des mois et avoir une demande que nous, on peut aller chercher chez nos producteurs et affiner sur toutes les recettes. Hein. Pour ce qui est du Québec, alors le Québec, ça bouge vite. Hein. Les gens ont envie de produits nouveaux, mais ils ont surtout envie de produits qu'utilisent les grands chefs en France. C'est qui se référencent, je sais pas si on peut dire ça comme ça, avec la qualité de ce qu'on peut trouver sur les tables des grands chefs. Et ils veulent avoir les mêmes produits ici pour pouvoir les travailler. Et puis pour pouvoir apporter du nouveau aux clients des restaurants qui sont aussi demandeurs en fait.
Et en Colombie-Britannique?
Alors là, on est plus sur une cuisine plus traditionnelle, comment on peut dire, à sauce. Je dis, c'est une cuisine qui est peut-être la cuisine qu'on pouvait trouver à Toronto il y a 5-6 ans. Mais par contre, depuis l'arrivée du Michelin, parce qu'on peut parler aussi du Michelin, on voit qu'il y a une évolution qui va très très vite. Et nous, on le voit sur nos ventes. Tous les mois, les gens viennent chercher des produits qu'ils n'avaient pas sur le marché, quoi. Qui pour eux, il y a quelques mois, ils auraient même pas eu l'idée de nous le demander, quoi.
Donc, tu es en train de nous dire que l'arrivée de Michelin a changé quelque chose dans la restauration au Canada.
Bien sûr, parce qu'ils sont obligés d'apporter du nouveau, du renouveau à leurs clients. Et puis, je pense que même vis-à-vis des équipes en place, des chefs, des sous-chefs, des gens qui travaillent dans la cuisine, ils ont envie d'avoir des produits différents. Ils ont envie d'avoir des produits avec une qualité qui est autre que ce qu'on peut trouver sur le marché. C'est un peu normal, en fait. Et surtout avoir le choix des produits. Parce qu'il y a des endroits, par exemple, sur la Colombie-Britannique, on va trouver, par exemple, les mêmes caviars, toujours, ou les mêmes producteurs. Aujourd'hui, ils ont un œil sur ce qui se passe à l'international. Ils regardent ce qui se passe chez les grands chefs dans d'autres pays. En Europe, ou en Asie, ou en Amérique du Sud.
Comment, vous deux, vous êtes arrivés, Elliot, comment t'es arrivé à... dans ce métier-là d'importation, de distribution de produits d'exception?
Alors moi, j'ai rencontré Eric, il faut savoir que j'ai commencé dans l'export de vin français, donc pas du tout dans les produits. On rejoint les produits de terroir, on rejoint cette idée de passion pour deux produits vraiment issus du terroir. Mais c'est vraiment là que j'ai commencé. Je suis arrivé au Canada il y a 2 ans et demi, pour la petite histoire, à peu près 3 ans maintenant. Et puis, j'ai commencé dans l'export de vin, et ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai rejoint Action. Que je travaille donc avec les magnifiques produits qu'importe Eric aujourd'hui sur tout le Canada. Et moi, je suis en charge donc de la région de Montréal. Et voilà, c'est ça. Je développe la région de Montréal avec tous les chefs avec qui on travaille déjà pour leur proposer des nouveaux produits et puis trouver justement des nouveaux restaurants. Parce que la scène ici est quand même assez dynamique, donc on a aussi pas mal d'ouvertures. De très beaux restaurants, donc tous ces chefs-là, justement, on va les rencontrer, on va sur le terrain et leur faire déguster à tous les jours, justement, les produits qu'on importe avec Eric.
Est-ce que tu peux nous donner des noms de chefs ou de restos, ou est-ce que c'est un peu tabou dans ça?
Je sais pas, Eric, on donne des noms?
Bien sûr, on peut donner des noms.
Sur les nouveaux restaurants ou...
Surtout les restaurants mythiques de Montréal et puis les nouveaux qui ouvrent.
Bah, sur les mythiques, on va citer Maison Boulue, par exemple. On va citer le Monarque aussi. On va citer tous les grands classiques, je pense, Eric.
Et le Serpent.
Le Serpent.
Joe Beef.
Oui. Par exemple.
Des restaurants qui sont des institutions, hein, quand même, à Montréal.
Ouais, quand même.
Et moi, ce sont des gens qui m'étonnent toujours, parce que toutes les semaines, on reçoit un petit SMS pour les commandes. Et souvent, ils nous disent, mais qu'est-ce que vous avez de nouveau cette semaine? C'est quoi la saison? Quels nouveaux produits vont rentrer?
Ça.
Ils sont très curieux, en fait. Ça, c'est chouette.
Est-ce qu'ils connaissent bien, je parle des cuisiniers canadiens ou pas français, parce que c'est beaucoup de produits français que vous avez. Est-ce qu'ils connaissent bien le terroir français?
En général, oui. Et puis les gens se documentent. Hein. Et puis parfois, c'est drôle. La semaine dernière, on a eu des ormeaux qui sont rentrés. Il y a beaucoup de chefs qui ne connaissent pas les ormeaux. Hein. C'est un produit quand même très spécial et excessivement rare. Le chef a regardé sur Google, il m'a dit « Ah oui, tiens, ben, j'en commande. » Et le soir même, ses clients ont pu goûter aux ormeaux, ont pu tester. Et c'était le premier heureux à pouvoir tester un nouveau produit.
Alors, c'est quoi des ormeaux?
Les ormeaux, c'est un coquillage, je sais pas comment on peut expliquer ça, bivalve, qui est extrêmement rare, qui est extrêmement protégé. Il faut savoir qu'en France, il y a seulement deux producteurs qui sont en Bretagne. Ce sont des produits qu'on a eu du mal à avoir. Il a fallu 2 ans pour pouvoir les faire rentrer sur le territoire. Tout simplement parce qu'il y a un manque de produits. De producteurs lents à vendre.
C'est des produits d'élevage, hein. Tu peux pas les ramasser sauvages.
Alors, ce sont des élevages en pleine mer. Mm-hmm. Et chaque jour, ils les nourrissent avec des algues qu'ils ramassent sur la plage. Ils ont une alimentation un peu particulière. Et ça leur permet d'avoir exactement le même goût que ce qu'on peut trouver en sauvage. Le sauvage est interdit, hein, comme, un peu comme le caviar aujourd'hui, ou de l'anguille. On ne l'a pas aujourd'hui sur le plateau, mais on a aussi de l'anguille, la grosse anguille que l'on importe. Ce sont des produits sauvages, avec ce qu'on appelle des réglementations qui sont très très importantes, très contraignantes. On a ce qu'on appelle des CITES dessus, donc avec un bureau des CITES, donc il faut y faire extrêmement attention. Et puis l'ormeau, bah, c'est, y a beaucoup de demandes pour très peu d'offres en fait. Hein. Donc, la plupart des ormeaux partent chez les grands chefs, étoilés en France. Donc, nous, il a fallu qu'on patiente gentiment pendant plusieurs années pour en avoir. Et puis aujourd'hui, on est fiers d'en avoir sous les yeux. Là. Puis on va avoir une importation à peu près tous les 15 jours.
Comment toi, Eric, t'es arrivé dans ce... Est-ce que c'est ta compagnie, Action?
Oui, c'est ma compagnie.
C'est toi qui l'as monté?
Exactement. Alors, je suis tombé dedans par hasard, en fait.
Ouais. Oui.
Quand je suis arrivé au Canada, il y a plein de gens autour de moi qui me disaient, écoute, on voudrait envoyer nos produits sur le Québec, sur le Canada. Mais c'est assez compliqué. Au niveau de la réglementation, c'est compliqué aussi en matière de culture, parce qu'on a des cultures complètement différentes. Et puis, la culture d'affaires n'était pas facile à organiser de la France au Québec.
Toi, t'es venu au Québec avant de lancer cette compagnie?
Oui, exactement. Oui.
Tu travailles dans quoi?
Alors, j'étais pas du tout dans ce métier-là. J'avais juste une passion pour ces produits-là.
Ouais.
Moi, je suis un enfant d'une famille d'agriculteurs, de gens qui ont été qui ont vécu en campagne. Toujours une passion de bons produits, avec des parents qui ont toujours fait une bonne cuisine, un bon repas à la maison. Des grands-parents aussi, je pense que c'est important. Et puis, on a perduré la tradition. Et puis, en fait, c'est tous ces amis qui voulaient importer des produits ici se sont tournés vers nous. Au début, on les a aidés en les mettant en contact avec des gens d'ici pour pouvoir faire avancer les choses. Puis, au fur et à mesure, on s'est dit, mais en fait, on ne le fait pas nous-mêmes. Pourquoi on regroupe pas tous ces gens-là pour pouvoir leur organiser le marché un peu mieux sur le Canada? Et puis, voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà.
C'était qui ton premier client, tu te rappelles?
Oui, c'était Ricardo, la Maison Boulue.
Ah oui?
Oui, qui a été formidable avec nous, qui a cru en nous dès le départ. C'était drôle parce que c'était un magnifique passeport, parce que dès qu'on vendait à Ricardo, ben, on savait qu'on pouvait rentrer ailleurs, en fait.
Alors, c'est pas le Ricardo de la télé, hein. C'est le chef Ricardo.
Exactement.
Qui était le chef avant Romain Cagna.
Exactement. Ricardo Bertolino, qui est un homme exceptionnel. On entend parler de lui tous les jours parce qu'il a formé énormément de gens. En fait, c'est petit qu'il a formé en cuisine. On les retrouve maintenant dans différents restaurants sur Montréal, sur Toronto, un peu partout d'ailleurs, sur Québec. Ce sont des gens qui ont su partager leur savoir, comme font beaucoup de chefs, comme font aussi beaucoup de chefs du Québec. Ça, mais on retrouve les chefs dans les cuisines après, qui viennent chercher nos produits.
C'est drôle que ce soit à la Maison Boulue, parce que c'est là aussi où on s'est rencontrés.
Oui,
on a été en podcast avec deux grands chefs, avec Glenn Viel et Daniel Boulue, et Romain évidemment. Et tu fournissais les produits pour le repas incroyable de Glenn Viel pour Montréal en Lumière. Donc, est-ce que tu peux nous parler des produits que tu lui as fournis?
Oui, alors on avait... De mémoire, on avait le caviar cristal qui était
dans une raviole de chou-fleur cru.
Exactement. Une petite sauce à côté qui était formidable. On a fourni aussi des langoustines, qui étaient des langoustines entières. Des langoustines qui avaient pratiquement 10 ans d'âge. Grosse langoustine.
C'est ça, il en parle dans le podcast aussi. Écoutez ça parce que c'est incroyable. C'est un de ses plafards. C'est incroyable la façon dont il les cuisine. C'est incroyable.
Et le produit est magnifique aussi. C'est vraiment un produit d'exception, même d'exception à l'intérieur de l'exception. Là.
C'était des langoustines d'Écosse, hein, si je me trompe.
Voilà, exactement. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, on a une grande maison hein, qui est Caviari, qui travaille avec nous depuis longtemps, qui nous fournissent nos caviars, mais qui nous fournissent aussi des langoustines, qui sont capables d'aller chercher des langoustines de tout âge, jusqu'à 15 ans d'âge, ce qui est incroyable. On a des langoustines qui sont énormes. Ce sont des beaux produits. En général, c'est 4 ou 5 pièces au kilo. C'est quand même des belles pièces. Et on peut y manger la tête, on peut y manger les pinces, on peut y faire des sauces, on peut faire beaucoup de choses. Puis c'est la grande mode aujourd'hui hein, d'avoir un produit dans l'assiette seulement avec une petite sauce. On avait aussi pendant ce repas-là, je crois, de mémoire, ben, de la truffe pour la viande.
En veux-tu, en voilà, si je me rappelle Exactement, bien l'intitulé du plat. Ah, oui.
Exactement. Et là, ils ont gâté leurs clients. Hein. Ce genre-là. Mm-hmm. Et puis, je pense que c'est tout.
Pour le dessert, il y avait de la vanille.
Alors, on a de la vanille de Tahiti, qui n'était pas dans le dessert, je crois pas.
Ok.
Je pense pas, mais on a une vanille de Tahiti qui est exceptionnelle aussi.
Ils en avaient pas dans leur dessert du boulanger ?
Peut-être possible, ouais.
Alors, je vous écoute depuis tout à l'heure, là, moi j'ai plein de questions. Ouais, forcément. Peut-être d'ici d'ouvrir, on reviendra sur ça peut-être plus tard, mais comment aujourd'hui tu vas choisir un nouveau produit ?
Alors souvent, voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de producteurs qui viennent à nous déjà, hein, parce que c'est important.
En France, ils viennent à toi.
Ouais, ils viennent à nous. Moi, j'allais pratiquement 5-6 fois par an en France pour les chercher des produits.
Mais vous êtes pas présent en France pour la partie distribution.
Non, du tout. Okay. Non, pas du tout. On est présent en France pour nos achats de truffes.
Oui. Hein. Vous avez un bureau d'achat en France.
Voilà, oui, on a quelqu'un. Ils distribuent pas.
Non, on distribue.
Ils vendent pas au restaurant français.
Non. En fait, on a quelqu'un qui fait nos achats de truffes, qui fait partie de l'équipe d'action. Hein. Faut savoir que l'achat de truffes, c'est quand même un marché très particulier. Hein.
Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est comme dans le souvenir où on se tient la main sous une serviette? C'est ça? Tu peux nous expliquer ça pour ceux qui connaissent pas? C'est formidable, ça.
Alors, on achète à peu près entre 80 et 100 kilos par semaine, ce qui est quand même relativement important. On est sur 3-4 marchés différents, donc le Périgord, la Provence, la Drôme, pour les marchés principaux. On n'achète que de la truffe française. Pour nous, c'est important. Bah, comment ça se passe? Tout simplement, on reçoit les cours en général la fin de semaine ou dimanche. Et puis, ça nous permet d'aller voir un petit peu ce qui est sur les marchés. Et puis, on fait nos choix de calibre et de qualité. Parce que dans la truffe, il y a beaucoup de qualités différentes. Nous, on achète toujours du top. C'est important pour nous. Notre marché, il est pas dans de la truffe tout venant. Hein. Il est vraiment dans de la truffe exceptionnelle. C'est ce que cherchent les chefs. Et puis, bah, quand on veut valider tout simplement au marché, on tape dans la main notre ramasseur.
Sous une serviette?
Sous une serviette, exactement. Ah, ouais. Alors, ça se fait aussi par le clin d'œil, ça se fait aussi aujourd'hui beaucoup par téléphone, bien évidemment. Mm-hmm. Ça facilite les choses, mais ça nous oblige surtout à aller dans chaque village. Vous savez que pour avoir 100 kilos, c'est un tour de force quand même. Hein.
Ouais.
Parce que parfois, un producteur peut nous ramener 1 ou 2 ou 3 kilos, parfois c'est juste 500 grammes. Donc il faut voir beaucoup de monde pour avoir une belle quantité. Quoi.
Sur des qualités homogènes aussi et sur de la qualité catégorie extra.
Voilà, exactement. Ouais.
Et est-ce que l'arrivée de grands acheteurs comme le Qatar, Dubaï, est-ce que ça a changé la donne au niveau de l'achat de truffes depuis 10 ans? Est-ce que ça a évolué ce marché depuis 10 ans?
Alors nous on a évolué parce qu'avant on avait tendance à travailler avec des revendeurs de truffes. Aujourd'hui, on travaille directement avec le producteur de truffes, beaucoup, simplement parce que ça nous permet d'abord d'avoir un rapport avec lui toutes les semaines. Hein, toutes les semaines, ça permet de. Aujourd'hui, c'est compliqué, on le voit autour du plateau aujourd'hui, il neige, mais en France, c'est compliqué aussi avec les changements climatiques. Donc, ça nous permet d'avoir le pouls toutes les semaines sur les qualités de truffes, selon les températures, les revirements de température en France l'hiver. Ben, il faut qu'on s'ajuste. Et puis, c'est pour ça qu'on travaille sur plusieurs régions. Ça nous permet, s'il fait pas beau dans le Périgord, il peut faire beau dans la Drôme ou dans la Provence. Donc, ça permet d'acheter d'un endroit à l'autre sans avoir de défaillance de quantité. Parce que les chefs, ils attendent le produit. Ils veulent pas entendre parler du climat.
Ils payent très cher.
Exactement.
D'ailleurs, vous devez avoir un sacré fond de roulement pour ces produits d'exception, là. Parce qu'il faut, faut payer en avance là-bas.
Exactement, il faut payer au cul du camion, comme on dit.
Ouais, c'est ça.
Et est-ce que tu payes cash là-bas ou...
Il y a les deux. Ils se sont quand même adaptés au marché. Hein. Mais oui, il y a une partie. Oui.
Bitcoin.
Exactement. Mais ils se sont adaptés au marché quand même, parce que quand on est à l'étranger, c'est toujours plus compliqué de payer en cash. Mais ça fait partie, oui, aujourd'hui aussi de notre facilité d'achat. Parce que c'est pour certains, comment on peut dire, ramasseurs, c'est important pour eux.
Alors, t'as quelqu'un.
Et c'est légal, hein. Ouais. C'est très légal en France. Donc,
t'as quelqu'un qui va. Une personne qui est en charge des truffes.
Ouais, qui fait beaucoup de kilomètres.
Ouais, il doit faire beaucoup de kilomètres. Il achète des truffes, qu'est-ce qu'il fait avec ça une fois là-bas?
Alors, on les regroupe en général. Alors, ça dépend des régions, parce que tout ça, il faut que ça prenne l'avion. Et vite. Et en général, nous, on ne fonctionne pas avec les messageries locales, comme on dit, vous savez, les marques de colis rapides. On fonctionne tout simplement, on réserve des sièges dans l'avion, on réserve de la place dans les soutes qui sont réfrigérées. Et en fait, on regroupe nos achats à un seul endroit, ou deux endroits par semaine, et on envoie tout directement. Ça arrive deux à trois fois par semaine, on a des arrivages de truffes fraîches.
Ouais. Au niveau de la... C'est des boîtes sous pression.
Alors c'est sous vide tout simplement avec du linge, ce qui permet de ne pas avoir d'humidité dans les sacs, ça c'est important. Ça permet aussi d'avoir une qualité de... Il faut voir la truffe à travers le sac, c'est important pour la douane, parce qu'ils doivent vérifier s'il n'y a pas de terre, s'il n'y a pas d'impureté, s'il n'y a pas d'objet autre que la truffe. Le visuel est très important pour eux. Et puis ça nous permet aussi de contrôler la qualité dès que ça arrive aussi.
La truffe, c'est quoi? C'est un champignon? C'est une racine? C'est quoi exactement?
Alors, vous voulez vraiment la vérité vraie?
Le plus proche de la vérité, si possible. Mais sinon, la légende urbaine.
En fait, c'est une maladie de l'arbre, en fait, tout simplement. C'est une petite aspérité qui pousse dans le sol, en fait, qui est un petit point rouge à l'origine, qui va grossir sous un certain type d'arbre, une espèce d'arbre.
Un chêne.
Voilà, exactement. Alors, chêne outre. Autre arbre, hein. Parfois il y a d'autres arbres qui permettent d'en trouver aussi. On a aussi, on ne parle pas de la truffe blanche, hein, mais on pourrait parler de la truffe blanche aussi.
Vous avez de la truffe blanche?
Oui, on a truffe d'Alba, oui, principalement.
Qui est aussi en France, plus dans l'Ouest.
Alors non, on est plus sur l'Italie là.
Ah, okay,
Alba,
okay.
Ouais, vraiment sur l'Italie.
C'est la seule qu'on n'achète pas en France en fin de compte.
Oui, exactement. Alors c'est toujours un peu compliqué Alba. Hein. Là on a deux petits producteurs avec qui on travaille depuis longtemps. Alors que la truffe d'Alba vient pas toujours d'Alba, hein, elle vient parfois d'autres pays autour. Nous, on veut pas acheter autre chose que l'Alba.
Vous faites affaire avec des Italiens, hein.
je veux dire, la truffe du Périgord, c'est non, pareil, hein.
Je fais exprès, parce que je connais beaucoup d'Italiens, donc je me suis permis une petite bagounette. Mais...
Ouais, moi, je connais les gars du sud de la France, c'est pas mieux, hein.
Ouais, c'est pas mieux.
Mais c'est important, ça, dans la traçabilité, parce que les chefs d'abord nous font confiance. Et puis, on a une bonne traçabilité sur nos produits, donc ça, c'est essentiel.
C'est quoi la différence entre une truffe noire et une truffe blanche? Au niveau du goût,
ça n'a rien à voir, en fait, le visuel. D'abord, la truffe noire, il y en a plusieurs. On dit truffe noire, c'est ce qu'on appelle la Mélanosporum, qui est une truffe, c'est la plus reconnue hein, dans le monde de la gastronomie, parce que c'est la plus parfumée, c'est la meilleure. Mais dans l'année, on a aussi la truffe d'été, qui se vend de plus en plus. On a la truffe d'automne aussi, qui a un parfum qui est différent, qui a une couleur différente.
La truffe de Bourgogne.
Qui est aussi appelée la truffe de Bourgogne.
Voilà, exactement. Oui. Ouais. Hein, c'est la même chose hein, que la truffe d'automne.
Mais elle pousse qu'en Bourgogne?
Alors non, elle pousse partout sur le territoire français. Okay. C'est tout simplement son nom, son petit nom. On en trouve dans le sud, on en trouve un peu partout. Alors nous, on achète toujours de la truffe de Bourgogne française aussi, parce qu'on y tient. Et puis il y a des régions comme l'Ardèche, où elle va avoir, la truffe de Bourgogne va avoir un petit goût de noisette. Hein. Un goût bien différent, le terroir est différent, comme la Mélanosporum. Hein. Si là on n'en a pas aujourd'hui, mais là aujourd'hui c'est de la truffe qui vient de Provence ou de la Drôme. Mais on a des robes de truffes qui sont différentes. La Drôme, par exemple, la terre est un peu plus rouge. Donc on va avoir une croûte de la truffe qui va être un peu plus rouge quand elle est ramassée. Et puis pour revenir tout à l'heure à notre processus de truffes dans le sol, pour expliquer un peu comment ça se passe. Une fois qu'elle est, on va dire, mature, vous avez des chiens qui viennent les ramasser, qui viennent les renifler. Ça reste toujours une méthode ancestrale de ramassage.
Avant, c'est les cochons. Hein.
Oui, exactement. Alors, les cochons, c'est toujours un peu plus compliqué, parce qu'on doit respecter aujourd'hui un processus avec des gens qui ne veulent pas que ce soit des cochons qui ramassent. On a aussi des clients qui sont attentifs à ça. Attention que ce soit exclusivement des chiens.
Tout simplement, cochons, un cochon, c'est plus difficile à maîtriser aussi qu'un chien.
Il mange aussi.
Exactement, il mange la truffe, exactement, quand il la trouve.
Donc non seulement il faut expliquer, parce que c'est compliqué, parce que tu tortures un peu le cochon, c'est au niveau des droits animaliers.
Non, pas du tout, c'est qu'on a des gens qui veulent manger des produits qui ne sont pas issus des ramassages par des cochons.
J'avais pas vu ce côté-là.
Exactement, oui. Alors nous, on travaille parfois, assez souvent d'ailleurs, avec des compagnies aériennes. On vend aussi beaucoup de truffes sur les classes business, première classe. Et forcément, on a des gens qui voyagent à l'international, qui font une traçabilité au niveau du ramassage, ouais, c'est important.
Alors, ta truffe arrive au Canada. Et est-ce que c'est déjà arrivé, je suppose, au début, là, que les douaniers ouvrent les sacs?
Bien sûr. Ils sont ouverts assez régulièrement, ils contrôlent beaucoup la terre. Même si elles sont parfaitement nettoyées, parfois on peut avoir des surprises. On a eu le cas cette année, malheureusement, où la truffe n'a pas pu être dédouanée parce qu'il y avait de la terre dessus.
Donc dans ce cas-là,
c'est des choses qui sont très contrôlées. Mais ce sont des produits qui sont détruits, tout simplement.
Ça fait mal au cœur. Du coup, tu fais des petits lots parce que c'est plus.
C'est pour ça qu'on fait plusieurs arrivages dans la semaine. Ça limite.
Détruisent tout l'arrivage de.
Ouais, exactement. Ouais.
De truffes s'ils trouvent de la terre sur une truffe.
Exactement. Ouais. En général, ils en trouvent un peu plus que sur une, mais. Ouais. Quand ça arrive, c'est malheureux, et puis c'est pas ça, ça arrive, ouais.
Puis là, t'as aucun recours, aucun remboursement, c'est de la perte pure.
C'est de la perte pure.
C'est la fin de cette première partie, on se retrouve dès demain pour la suite de cette conversation. Ciao, ciao.